Sélection officielle, programmes spéciaux, Midnight Specials, sélection contre-champ et bien sûr Annecy Classics. Nous sommes toujours au Festival International du Film d'Animation d'Annecy. Je suis Pierre Charpioz et vous écoutez Revue et Corrigée, la grande vadrouille, le tour de France des festivals de cinéma par Revue et Corrigée. Depuis le Festival d'Annecy, troisième épisode. Pour ce dernier épisode depuis le Festival d'Annecy, Revue et Corrigée la Grande Vadrouille vous propose un petit zoom sur une histoire particulière du cinéma d'animation, celle du cinéma dit informatique ou numérique. On en discutera avec le spécialiste du sujet, l'historien de l'image de synthèse Pierre Hénon. Mais tout d'abord, rendez-vous au MIFA, au Marché International du Film d'Animation, avec Jean-Baptiste Garnero du CNC, à l'origine de la rétrospective du Tracé au Pixel, naissance du cinéma informatique en France 1930-2000, présentée au Festival d'Annecy, section Annecy Classics. Nous voilà de retour au MIFA, au Marché International du Film d'Animation, dans les jardins. Cette fois-ci, on est juste devant l'Impérial Palace qui accueille le MIFA, en face du lac. On profite d'une nouvelle journée agréable au Festival d'Annecy. On est en compagnie de Jean-Baptiste Garnero. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé d'études pour la valorisation des collections au CNC et le CNC, cette année, au Festival d'Annecy, présente une rétrospective sur le cinéma d'animation informatique en France. Alors déjà, première question, pourquoi le cinéma d'animation informatique ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça sous-entend que en fait, ce ne sont que des images qui ont été fabriquées à l'aide d'ordinateurs. C'est un terme qui a été inventé par André Martin. Justement, je trouve ça très juste, c'est-à-dire que c'est le cinéma informatique, c'est-à-dire que c'est conçu, imaginé à l'aide d'un ordinateur et exclusivement à l'aide d'un ordinateur. Et donc, dans les années fin des années 70, début 80, il y a eu pas mal de pionniers qui sont essayés, grâce aussi à l'évolution technologique de ces fameux ordinateurs, à faire de nouvelles images, ce qu'on appelait des nouvelles images, qui renvoient directement aussi au Festival de Monte Carlo, des débuts des années 80, qui est devenu ensuite le Festival Imagina à partir de 85.
Qui est un festival consacré au cinéma numérique.
Numérique et nouvelles images, comme on le disait, on l'appelait comme ça à l'époque. Ça a un côté un peu désuet aujourd'hui. Parce que tout ça, maintenant, aujourd'hui, mélangé, on ne le remarque plus. L'évolution technologique est telle que maintenant, on parle d'hybridation de l'image, puisque dans n'importe quel film de prise de vue réelle, les films de science-fiction ou tout ce qui est Marvels, il y a de l'image de synthèse. Sinon, on peut pas raconter l'histoire comme on voudrait la raconter. Donc, c'est un support maintenant qui est en fait pas transmédia, mais transgenre entre guillemets entre le cinéma de prise de vue réelle et l'animation. Les deux se mélangent.
Oui, c'est vrai qu'il suffit de se promener dans les artères du MIFA pour voir des stands de sociétés qui font des VFX, par exemple, qu'on n'imaginerait pas forcément au cinéma d'animation, et pourtant, le lien est là. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est quand on regarde les barrières chronologiques de cette rétrospective, vous parlez des années 70-80, qui est effectivement la période où on imagine naître le cinéma informatique, mais pourtant, vous la faites commencer dans les années 30.
Oui, parce que pour une simple raison, c'est que je ne voulais pas me cantonner justement à cette période des années 70, 80, 90, qui ont été en fait ont vu d'abord les balbutiements et ensuite une certaine prise de maturité donc de cette technique d'animation liée aux ordinateurs. Je la termine en 2000 avec symboliquement une publicité réalisée par Pierre Coffin. Pierre Coffin, ce sont les Mignons, donc entre autres. Mais je la fais commencer très très tôt parce que je voulais profiter de cette séance, de cette rétrospective, pour aussi amener le public à réfléchir à ce que pouvaient être les prémices du cinéma informatique. Et donc, on commence en fait en 1930, symboliquement, avec une invention qui a eu lieu, qui a été mise au point en 1930, c'est l'écran d'épingle d'Alexeïev et Claire Parker, qui a bien regardé, en fait, l'écran d'épingle, c'est quoi ? C'est une surface avec des épingles sur une surface blanche. C'est du pixel analogique, mais c'est quand même du pixel. Alors, bien sûr, eux, on n'en avait pas conscience, ils ont eu conscience, ils ont fait le rapprochement de leur vivant, puisque Alexeïev était toujours quelqu'un, et Claire Parker, toujours quelqu'un des personnes qui étaient très au fait des nouvelles inventions, avancées technologiques, etc., en termes de cinéma et aussi en informatique. Et bien sûr, ça n'a pas raté. Enfin, je veux dire, ils avaient des revues dans leur collection, dans leur fond, chez eux, liées à cette évolution technologique. Donc on commence en 1930 avec en fait un reportage qui date de 1960 mais qui fait directement rapport, lien avec cette invention. Et aussi avec d'autres films qui ont précédé en fait cette révolution du cinéma informatique, qui sont des films en fait faits à l'aide de composants électroniques, notamment Chromophonie de 1967 d'un peintre qui s'appelait Alexandre Vidkin et qui, à l'aide d'un simple téléviseur à tube, va tordre l'image, la colorer et faire en fait des formes qui sont proches de celles de Lissajous, c'est-à-dire ces formes très géométriques, très belles. Voilà. Et donc là aussi, c'est pareil, c'est l'ancêtre quand même du cinéma informatique. On peut pas le nier. Il y a pléthore de films comme ça que je n'ai pas pu mettre pour diverses raisons dans cette programmation. Mais il y en a vraiment plein.
Vous parlez de l'écran d'épingle, je sais que c'est une technologie, une invention qui vous tient à cœur, Jean-Baptiste Garnero. Il y a une volonté un peu de la faire revivre en quelque sorte aujourd'hui.
Ça, c'est un travail que le CNC s'attache à faire depuis, en fait, ça fait 10 ans. Le 13 juin 2002, on signait, 2012, pardon, on achetait l'écran d'épingle Alexeïev Parker, le dernier qu'ils avaient construit, qui était encore en état de fonctionnement. À l'époque, il n'y en avait que deux dans le monde. Celui qui est à l'ONF, à l'Office National du Film du Canada, et qui est en fonctionnement depuis 40 ans, et l'autre, le deuxième, le dernier, en fait, qui était presque à l'abandon, en tout cas à l'arrêt d'un point de vue artistique, et qu'on a acheté. Et depuis, on a fait un atelier avec des cinéastes qu'on a organisé d'ailleurs ici à Annecy en 2015. On a fait une grosse rétrospective avec CF Parker au Musée Château pour expliquer toute leur vie et replacer aussi Claire Parker la place où elle devait l'occuper, savoir une place très importante dans l'œuvre d'Alexeïev et la création de cet écran d'épingle. Et puis maintenant, depuis 2017, on a une remise en production de l'écran d'épingle qui commence à être très très régulière. On a un film là qui est en cours de tournage. Alors c'est pas le CNC qui le produit, le CNC favorise la mise à disposition de l'écran d'épingle et donc le met à disposition de producteurs et d'artistes. Et donc 2017, on a eu Justine Vulstecker qui a fait Étreinte avec Offshore Production, coproduction avec l'ONF. En ce moment même est tournée à Valence, à la cartoucherie de Bourg-lès-Valence, la saison pourpre de Clémence Bouchereau, produit par Bandini Film. Et puis l'année prochaine, on aura un autre projet aussi, dont je ne peux pas parler encore, mais voilà. Donc il y a une montée en charge des projets, et donc on va pouvoir comme ça continuer à faire beaucoup beaucoup de films, je l'espère, du moins les producteurs en France avec cette technique.
Pour revenir sur le cinéma numérique dont on va voir quelques films dans cette rétrospective, la particularité c'est que c'est aussi très lié à l'évolution de la technologie, qui est une technologie qui a évolué très très vite. Quel regard on porte aujourd'hui sur ces films et qui représente aussi la technologie de leur époque?
J'ai envie de vous dire que le passé a encore des choses à nous dire. On parlait d'Alexeïev et du fait de cette anticipation involontaire du pixel à travers l'écran d'épingle. Je veux pas dire qu'à l'époque on avait déjà tout inventé, mais il y a des choses qui ont été faites à l'aide de simulateurs de vol, donc des machines qui ont été détournées de leur intention première pour faire des films d'animation, notamment des films publicitaires dans les années 80, qui sont absolument remarquables. Et il y avait déjà une sorte de maturité déjà esthétique et technique en France, puisque là on parle bien de ce qui s'est passé en France. Et moi je ne peux que m'émerveiller de ça et de regarder ça avec mes yeux d'aujourd'hui. Il y a certains films publicitaires que je voyais étant gamin à l'écran. C'est assez drôle de pouvoir les projeter maintenant, les programmer ici à Annecy. Mais je me dis qu'en fait on est peut-être quelque part nous aussi au balbutiement de quelque chose sans le savoir, et on est en train de vivre en fait une époque formidable, parce que visiblement l'évolution technologique est sans fin. Là, maintenant on fait de l'animation en temps réel à l'aide de logiciels utilisés dans le cadre de jeux vidéo, et donc on fait des films jeunes publics pour France Télévisions, des choses comme ça, et on conçoit ça, et c'est hallucinant. Moi je suis émerveillé.
Ça pousse les frontières de l'animation extrêmement loin, et ça brasse quelque chose de très très large. Ça a toujours été évident que ce cinéma informatique soit considéré comme du cinéma d'animation et sa place à Annecy.
Non, parce que au départ, quand même, il y avait forcément des films ratés. Donc, c'était pas très vendeur, c'est sûr. Mais il y en avait d'autres qui étaient très réussis, très ambitieux. Donc que ça trouve sa place à Annecy, oui, forcément. La figure de proue de ça, le premier ambassadeur de ça, c'est André Martin, qui va réaliser dans le cadre d'un projet qu'il a mené au sein de l'INA à l'époque, dans les années 80, avec ce fameux logiciel donc de la Sogitech qui était des simulateurs de vol, un film qui s'appelle Maison Vol. Et bien sûr, bon, André Martin, il est indissociable de l'histoire du cinéma d'animation et du festival du film d'animation d'Annecy, puisque c'est l'un des créateurs aussi, quand même. Et donc, on lui doit énormément. Et donc, c'était normal aussi que quelque part, lui serve un peu de porte d'entrée ou fasse un appel d'air par rapport à ça et attire en fait les créateurs de l'époque vers ces nouveaux médias, en fait, nouveau médium qui était le cinéma informatique.
Vous, à titre personnel, vous êtes un habitué du Festival d'Annecy. Vous vous souvenez de votre première expérience ici?
Oui. Alors moi, je suis rentré, par la grande porte. C'était en 2008. J'aurais bien voulu y aller avant, mais bon, c'était compliqué. Et donc, 2008. En fait, j'ai fait partie de à l'invitation du festival, j'ai fait partie du jury de présélection des courts-métrages, puisque ça se faisait comme ça à l'époque, où en fait des professionnels étaient invités pendant 15 jours à visionner non-stop pratiquement tous les courts-métrages ou les longs-métrages, enfin tout dépend de la catégorie, qui étaient soumis au festival, et on faisait donc cette sorte de présélection qui était ensuite proposée au public et forcément au jury professionnel lors du festival. Donc c'est un très très bon souvenir, et depuis 2008, je n'ai pas manqué une seule édition.
On vous souhaite alors encore un bon festival et une bonne présentation de films qui aura lieu tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Baptiste Garnero.
Merci à vous.
Allez, on retourne à Bonlieu pour rejoindre le professeur Pierre Hénon. C'est lui qui a introduit à l'École nationale supérieure des arts décoratifs l'enseignement de la vidéo dans les années 70, puis celui de l'infographie en 1982. Historien du cinéma numérique, il est l'auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet. Et puis c'est aussi un habitué du Festival d'Annecy, et on le retrouve d'ailleurs sur le square devant Bonlieu. Le soleil commence à décliner, il fait un peu moins chaud. C'est le moment idéal pour parler cinéma d'animation numérique autour d'un verre en terrasse. Bonjour Pierre Hénon.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'image de synthèse en France, auteur d'une histoire française de l'animation numérique, paru en 2018 aux Presses du Réel, et vous êtes professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Alors, le cinéma numérique, on en a vu un aperçu avec la sélection de films présentée par le CNC à Annecy Classics, mais si elle devrait débuter à une période précise, à une date précise, l'histoire du cinéma numérique en France, elle débuterait quand ?
En France, c'est avec deux films qu'on a vus ce soir, qui ont été fabriqués en 82 et sont sortis tout début 83. Human Unknown de Michel François et Maison Vol de André Martin et Philippe Quéot, qui sont deux films assez marquants. Il y a eu des petits essais en images numériques, comme toujours au début, ça balbutie. Mais disons, c'est vraiment là qu'on a deux premiers courts-métrages scénarisés, entièrement faits en images de synthèse, par deux filières avec deux techniques très différentes et qui sortent en même temps au festival qui deviendra Imagina, mais qui s'appelle à l'époque le Festival International de Télévision de Monte Carlo, dans lequel il y a un petit événement autour de l'image numérique, et donc en février 83 à Monte Carlo.
Et comment vous y êtes intéressé à cette histoire-là et au cinéma d'animation numérique, et pourquoi ?
Alors moi, mon histoire personnelle, c'est un peu un hasard. J'étais déjà professeur à l'École des arts décoratifs autour de la géométrie, de l'enseignement scientifique. Et à la fin des années 70, avec quelques collègues d'animation, de design, d'architecture, on a commencé à penser que c'était intéressant d'avoir des ordinateurs pour les élèves. Au début, on n'a pas eu les moyens, et heureusement, il y a eu François Mitterrand qui est arrivé en 81, qui a doublé avec Jacques Lang le budget du ministère de la Culture, dont dépendent les arts déco. Et ça nous a permis alors d'avoir des moyens assez conséquents. Et donc, je me suis lancé, sans vraiment le faire exprès au départ, dans cette aventure de monter un service d'image numérique pour former des étudiants. Ça a été la première formation en France, avec celle de l'Université Paris 8, à former des étudiants à faire de l'animation numérique. Et donc, j'ai côtoyé toutes les sociétés. Et beaucoup plus tard, au début des années 2000, j'ai commencé à retravailler sur cette courte histoire. Elle est relativement récente. Et je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de John Lasseter, qui est quelqu'un que j'ai souvent rencontré et qui est effectivement un très grand créatif et quelqu'un de très intéressant. Ou dans d'autres domaines, de Bill Gates et Steve Jobs, qui ont démarré dans leur garage. Et moi, pour les avoir fréquentés dans les années 80-90, je connais plein de gens du même genre, enfin, qui ont monté ce qu'on appellerait aujourd'hui des start-up à cette époque-là. Et je trouvais qu'ils étaient méconnus. On a, comme souvent, je trouve tendance un peu en France à toujours dire « Ah, les Américains », et oublier qu'on est des fois pas trop mauvais non plus. Et c'est le cas, je trouve, dans l'image numérique. Aujourd'hui Illumination qui a fait les Moi moche et méchant et qui sort bientôt le Mignon 2 qu'on a vu là il y a quelques jours ici en avant-première, c'est une société française et les 5 copains ils étaient encore à l'université quand ils ont monté MacGuff, ils ont bouffé de la vache enragée mais ils existent toujours et ils sont devenus une boîte qui emploie je sais plus près de 800 personnes à Paris et qui fait des films pour les Américains. On pourrait en citer d'autres, Pierre Buffin avec Buff et compagnie.
Et Pierre Buffin, ce qui est étonnant, c'est qu'on le connaît aussi beaucoup aujourd'hui pour les effets visuels, les VFX, et peut-être moins pour le cinéma d'animation. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de frontière et un espèce de mélange qui s'est fait entre les deux, non ?
Alors je dirais que vous avez raison, aujourd'hui on distingue et c'est des filières complètement différentes. Je pense que dans les débuts des années 80, moi je mélangeais les deux, parce que dans les débuts, tout était mélangé. C'était à la fois un peu, je sais pas, on l'a vu dans les films de ce soir, il y en a qui mélangent de l'image réelle et de l'image numérique, il y en a qui sont toutes en image numérique. Et je dirais que cette distinction animation VFX, je ne saurais pas dire de quand elle date, mais au tout début, je pense qu'elle n'avait pas tellement de signification. Voilà, on faisait les deux. C'est pour ça que j'avais tendance, vous avez raison. Et d'ailleurs, MacGuff a viré en deux sociétés, une qui fait de l'animation et une qui est restée beaucoup plus sur les VFX. Elle fait aussi un peu de l'animation. Et c'est vrai que Pierre Buffin et Buff, eux, ils sont complètement VFX. Et je pensais à un troisième, Olivier Emery, qui a monté Trimaran, qui a aussi démarré au début des années 80, qui est aussi plus VFX.
Quel est le rapport entre le monde du cinéma d'animation et le cinéma numérique ? Est-ce qu'il a réussi à s'imposer comme un nouveau genre du cinéma d'animation assez facilement ? Ou est-ce qu'il y a eu des appréhensions ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas exactement les mêmes métiers.
Ah, il y a eu des appréhensions, il y a même eu, moi je me rappelle, les premiers festivals d'Annecy, je crois, où il y a eu un film numérique présenté, c'était en 85, mais pour les Français, si je dis pas de bêtises, c'était 87, puisqu'à l'époque, le festival était tous les 2 ans. Et je me rappelle qu'il y a eu une levée de bouclier un peu des animateurs traditionnels, je peux les comprendre, mais qui avaient un peu tendance à dire c'est pas du jeu d'utiliser un ordinateur, c'est de la triche. Donc, faut pas les prendre. Et il me semble, j'ai jamais pu le vérifier, il y a sûrement des gens ici qui pourraient mieux le vérifier que moi, qu'à l'époque, le festival a été obligé de reprendre le règlement pour bien clarifier que toutes les techniques était valable. Et je dirais que dans d'autres domaines, j'ai vu des films ici très intéressants, même la pixelation, c'est au départ de l'image de vue réelle mais retravaillée, et on voit bien par exemple dans la section off-limit qu'on voit des films, enfin des fois, et je pense ils ont raison que le festival a clarifié qu'il y avait une vision assez large de ce que c'était que le cinéma d'animation. Dès qu'on travaille l'image au-delà de la prise de vue réelle, ça peut rentrer, je pense, dans ce genre. Mais c'est vrai que les débuts, il y a eu un peu du tiraillement. Et puis maintenant, c'est venu. Moi, je pense que tous les gens ont leur place. À l'école des arts décoratifs, il y a une section animation où il y a encore, et je trouve que c'est très bien. C'est plus rare dans les écoles privées, mais on a ce privilège dans une école publique d'avoir encore des gens qui font, c'est même la majorité, qui font des films dessinés de A à Z, des films avec du sable. On a encore, alors même dans le monde professionnel, des films en stop motion. Enfin, je pense que justement le monde de l'animation est un monde où il y a plein de techniques qui ont été utilisées. On a vu encore un film ce soir avec écran d'épingle qui est une forme de pixel, mais où il n'y a rien de numérique, qui est en train un peu de renaître. Il y a des gens qui essayent de refaire passer. Je trouve que c'est la beauté du cinéma d'animation, c'est de pouvoir utiliser plein de techniques différentes.
La particularité du cinéma numérique, c'est un peu une évidence de dire ça, mais que c'est très lié à la technologie, une technologie qui évolue très vite, enfin, dans l'histoire. Est-ce que quel regard on a aujourd'hui sur ces films qui ne sont pas si anciens, finalement, qui ont 30, 40 ans, mais pour lesquels la technologie a complètement changé?
Ah ben c'est sûr que la technologie, alors surtout à cette époque-là, c'était assez impressionnant et en même temps fascinant et décoiffant, parce que d'une année sur l'autre, la technologie évoluait. Maintenant, il y a des évolutions, mais c'est un peu plus lent, enfin c'est plus stabilisé. À l'époque, je me rappelle un des trucs que je trouve les plus marquants, c'est une société qui a disparu depuis, qui s'appelait Fantôme, de Georges Lacroix et Renato, qui avait fait la série des fables géométriques, Les Fables de La Fontaine, avec des textes de Pierre Perret. Il y a eu 5 saisons de 13 épisodes, je ne sais plus. Mais enfin, entre le premier de la première série et le dernier qui a été fait 3-4 ans après, il y a une différence technologique fascinante. Entre-temps, il y a des ondes portées. Les premiers, c'est vraiment des... Chaque animal, c'est vraiment juste un cube, un cône, un cube pour le corbeau. Le premier, c'est le corbeau et le renard, évidemment. Le corbeau, c'est juste un cube. Le renard, c'est un cône. Et à la fin, on a 3-4 ans après, on a des différences, enfin quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Donc effectivement, la technique évolue. Après, alors moi je suis peut-être un peu déformé parce que je suis passionné par cette histoire. Je trouve que les films de cette époque, quand ils sont bons, je pense qu'un film, quelle que soit la technique, il tient bien à travers les années. On peut faire un film avec toute la technique qu'on veut, s'il est mauvais, il sera ennuyeux. Et un film avec très peu de technique, si on a un bon créatif, il fera quelque chose qui tiendra à travers les années.
On a atteint une espèce de maturité technologique aujourd'hui dans le cinéma d'animation numérique ou
Aujourd'hui, oui, je crois qu'encore une fois, il y a des progrès sans arrêt, il y a des progrès sur la capture de mouvement, sur qui va peut-être faire d'ailleurs qu'un jour tout le cinéma sera de l'animation numérique parce que on fera de la capture assez systématiquement.
Comme dans le congrès d'Harry Folman, par exemple.
Oui, et où ce qu'on avait vu déjà, il y a celui avec les personnages en bleu là.
Avatar.
Avatar, voilà, qui a été le premier. Il y en a eu plein avant et il y en a eu plein après, mais c'est le premier, je pense, grand public, grand film où il y avait vraiment très basé sur de la capture de mouvement. Donc là, il y a plein de progrès sur le rendu. On continue à faire des progrès. Mais il y aura sûrement encore, la technique n'arrête pas d'évoluer. Mais c'est vrai qu'on est arrivé quand même à une certaine maturité aujourd'hui, je pense, de ce type d'animation.
Du point de vue de la jeune génération, je pense à vos étudiants par exemple, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, est-ce qu'ils sont intéressés plus qu'avant par le numérique? Est-ce qu'il y a eu des vagues comme ça de...
Alors moi, je suis plus professeur. Hein. Maintenant, je suis à la retraite. Je vais parfois voir les étudiants. Et maintenant, les étudiants, nous, on est toujours plutôt à essayer de chercher en pointe, partent un peu plus sur ceux qui veulent expérimenter sur les problèmes de réalité virtuelle et de tout ce qu'il y a autour de ces mondes qu'on peut faire aujourd'hui. Mais je pense que oui, il y a toujours eu des étudiants fascinés par la technique et encore une fois, on en a d'autres qui préfèrent rester sur des techniques traditionnelles. Je pense que c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, il y avait peut-être plus une fascination parce que c'était vraiment nouveau dans les années 80. Là, on a vu plein d'étudiants se précipiter, se dire « Tiens, on peut faire de l'image avec un ordinateur, allons regarder ce qu'on peut faire ». Maintenant, c'est devenu un peu banal, mais... Il continue, je vous dis, à y en avoir qui le font avec ordinateur et d'autres qui le font avec d'autres techniques.
Pour terminer, je vous pose la question que je pose à tous les intervenants. C'est votre premier souvenir du Festival d'Annecy, la première fois que vous êtes venu ici?
Ah, ça, c'est une vacherie.
C'est il y a combien de temps à peu près?
Je pense que c'était en 87 ou 89. Donc c'était... ce que je me rappelle, c'est qu'on avait les tickets, que quand on voulait changer une séance, il fallait faire la queue pour échanger son ticket. Voilà. Donc là aussi, l'informatique a un peu changé et en partie simplifié les choses. Encore qu'il n'y a plus d'application, ce qui est dommage, du festival. Mais un souvenir marquant du premier festival, là, vous me prenez en deux. Ouais, voilà, allez, les bulletins papier, c'est un peu... en film, je sais plus, il y avait les premiers films numériques. Il y a eu Manonone qu'on a vu ce soir, qui était présenté, et Maison Vol qui ont été aussi présentés ici.
Merci beaucoup Pierre Hénon, et je vous souhaite une bonne suite de festival.
Merci.
Voilà, c'est ainsi que s'achève le dernier épisode de Revue et corrigée la Grande Vadrouille au Festival d'Annecy. Merci à Eugénie Philo de Revue et Corrigée, à Laurent Sittier, Judith Christophe-Haro et toute l'équipe du Festival d'Annecy. Merci à Antoine Dabrowski de Tsugi Radio. On vous rappelle que le festival continue. Si vous n'avez pas la chance de faire un tour dans la Perle des Alpes d'ici la fin de semaine, vous pouvez suivre les très riches activités du festival sur Facebook, Twitter et Instagram, @AnnecyFestival. Et si vous voulez plus de promenades dans les festivals de cinéma à travers l'Hexagone, abonnez-vous à ce podcast, Revue et Corrigée, La Grande Vadrouille. Et enfin, pour plus d'histoires sur le cinéma classique et sur le film d'animation notamment, dans le dernier numéro, abonnez-vous à la revue, Revue et Corrigée. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Grande Vadrouille.